ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Jean-François Allemand, vous êtes professeur de lettres classiques, vous avez été formateur en formation continue et vous êtes occupé d'enfants des classes professionnelles de niveau. Merci Jean-François d'être venu.
Eh bien, c'est moi qui vous remercie, Benoît.
Oui, vous allez nous parler de votre foi, de vos convictions, mais aussi de vos questions, parce que vous avez eu un parcours à la fois professionnel, mais aussi dans la recherche de la spiritualité. Nous nous étions connus au GREP, le groupe de recherche, il y a un certain temps déjà.
Il y a un certain temps déjà, oui.
Le GREP, c'est le groupe de recherche d'éducation permanente et où il y a, on va dire, une petite chapelle, en tout cas un petit groupe, où on réfléchit sur incroyance et foi, foi et raison, dogme, et donc tout, on allait dire, ce qui nous passe par la tête et par le cœur.
C'est ça, exactement. Je préfère le terme groupe au terme chapelle, quand même.
Oui, et en fait, vous avez été élevé par des femmes, oui. Parce que vous avez perdu votre papa avant votre naissance.
Oui, un mois avant ma naissance, ma mère avait déjà une petite fille qui avait 10 mois, et moi je suis né un mois et quelques jours après la mort de mon père. Donc ma mère m'a porté, sachant que mon père allait être opéré, et donc j'ai eu ce sentiment en moi, très très jeune, de la mort.
Également, quand votre maman a été égorgée par quelqu'un, nous n'allons pas dire sa nationalité, ni sa religion, parce que tout ça c'était plutôt... en fait, quelqu'un de déséquilibré qui avait
déséquilibré.
Été...
Oui. Complètement déséquilibré. Oui. Ma mère était une grande chrétienne. Elle nous a élevés seuls, avec l'aide d'oncles. Et elle nous laissait extrêmement libres. À 15 ans, ma sœur et moi, nous allions danser, par exemple. Nous faisions partie de groupes de jeunes de la paroisse. Mais on allait à des surboums, on allait danser. Elle nous laissait libres.
Alors que votre papa était athée, mais très ouvert.
C'est ça, exactement.
Et puis une ascendance avec des personnes qui ont des responsabilités dans la cité.
Oui, oui, exactement aussi.
Alors, vous avez donc réfléchi à la vie, à la mort, mais aussi, à un moment donné, vous m'avez dit que vous avez pactisé avec l'extrême droite pour des raisons très précises.
Oui, parce que du côté de ma belle famille, c'était des gens... mon beau-père était né en Algérie, il avait deux fils et deux filles, mon ex-épouse, la dernière... Il y en avait deux qui étaient nés en Syrie, lors des différentes garnisons, et un autre qui était né en Algérie. Et le frère aîné était capitaine sorti de Saint-Cyr, jeune capitaine, chef de SAS en Algérie. Et au moment où le général de Gaulle a proclamé le désir d'indépendance de l'Algérie, il s'est tourné vers l'OS. Comme j'étais en admiration devant ce beau-frère qui avait 10 ans de plus que moi, j'ai pactisé avec l'OS. J'ai servi de boîte aux lettres ici en France.
La nation. L'importance d'une foi chrétienne par rapport à des ennemis que l'on pense vouloir le déclin de notre civilisation.
Toute
une analyse de la société, mais en même temps la mondialisation.
Oui, il y avait le sentiment que le christianisme et la société occidentale étaient supérieurs aux autres sociétés.
Alors pourquoi les lettres classiques, le latin, le grec et l'allemand ?
Oh, c'est un parcours assez bizarre, mais avec le recul, je me rends compte que j'ai été très sensible aux signes que la vie m'envoyait. Je devais être professeur d'allemand, puisque j'étais optant allemand au lycée Pierre de Fermat, où j'étais élève. Et puis, au moment de propédeutique, j'ai loupé l'épreuve d'allemand, et j'ai réussi assez bien celle de latin. Et la personne que je fréquentais alors, qui est devenue ensuite ma femme, m'a dit « Mais pourquoi tu ne ferais pas lettres classiques ?» Mais je n'avais jamais fait de grec, moi. Et donc, j'ai fait du grec en même temps que j'ai commencé ma licence de lettres classiques.
Vous parlez de signes, de symboles, mais il faut avoir la foi. Ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas. Qu'est-ce qui fait que vous interprétez ces signes comme un appel ?
Franchement, je ne sais pas. Je crois que c'est sans doute l'influence indirecte de la vitalité de ma mère. Et de ma grand-mère. Ma mère était rationaliste, mais ma grand-mère était quelqu'un de très proche de la nature, de la fantaisie. Elle était musicienne, elle jouait du piano, elle faisait bien la cuisine ou mal la cuisine. Quelqu'un de très fantaisiste. Et donc, qui ne se faisait pas de soucis pour le lendemain. Alors que Il y a eu énormément de deuil dans ma famille. Des gens jeunes, une tante qui est morte en couche, son bébé est mort ensuite, un oncle qui s'est écrasé, enfin, beaucoup, beaucoup de deuil dans la famille. Les hommes ne vivaient pas au-delà de 50 ans, 55 ans. Et donc, ma mère, qui était quelqu'un qui était une belle femme, elle cultivait à la fois, elle n'avait pas fait d'études, elle cultivait à la fois un domaine intérieur très important, et elle lisait beaucoup, énormément, alors qu'elle n'avait pas fait d'études. Elle avait arrêté le travail en classe de quatrième. Et voilà, elle était devenue dactylo après la mort de mon père au Ponts et Chaussées.
Je connais votre grand amour des livres. Vous êtes une bibliothèque ambulante. Mais dès le début, vous avez, je crois, eu ce souci de partager vos compétences, partager vos connaissances. Et donc, c'est le métier d'enseignant qui vous attire.
Alors, sans doute parce que lorsque j'étais élève, à l'école primaire, j'étais un bon élève, et quand je suis arrivé au lycée, il y avait une concurrence beaucoup plus importante. Et lorsque ma mère m'accompagnait un jour en quatrième voir un professeur, elle lui avait demandé ce qu'il pensait de moi. Et il avait dit « Oh, il est bien gentil ». Et j'avais ressenti ça comme, au fond, il n'est pas très malin, mais il ne chahute pas, quoi. Et donc j'avais un complexe d'infériorité. Et donc c'est uniquement parce que certains enseignants ont eu un regard positif sur moi que je me suis dit que je n'étais pas plus bête que les autres, pas plus intelligent, mais que je pouvais faire moi aussi des études.
Ça s'appelle l'effet Pygmalion.
Oui, c'est ça.
Pour ceux qui sont dans l'éducation. Oui, je parle de l'éducation parce que il y a un groupe au niveau de l'ensemble de la France qui s'appelle les chrétiens de l'enseignement public, avec une revue, Ligne de crête. Donc c'est quelque chose qui est délicat, l'enseignement, en ces temps où nous ne savons plus, avec le drame de Samuel Paty, nous ne savons plus comment les mots peuvent engendrer des blessures et même parfois être d'une violence symbolique par une discrimination, par le racisme. Et alors, c'est tout le travail de l'enseignant, d'arriver à déminer c'est ce que j'appelle ces chiffons rouges. Mais vous avez des exemples très précis, mais pas seulement au niveau de l'espace public, mais aussi, nous allons en parler tout à l'heure, dans les dogmes et dans les questions que pose l'interprétation de nos textes.
Alors juste un exemple par rapport à mon métier. J'ai entendu un jour une collègue dire à un enfant, alors elle s'adressait à l'enfant et non pas à l'élève, tu es quelqu'un de totalement inintéressant. Je trouve ça, c'est un crime.
Oui.
Autrement dit, ce genre de réflexion m'a fait réfléchir, plus celle que j'avais subie moi-même lorsque quelqu'un m'avait dit que j'étais bien gentil. Et puis par rapport au langage, je me suis rendu compte qu'en travaillant le latin grec, je touchais aussi aux racines de notre culture et qu'il fallait que je m'intéresse aussi aux mots français. Et donc il y a plein de termes, pour reprendre ce que vous disiez, qui dans les évangiles me posent un gros problème de traduction. Je suis abonné à Prions en Église. Et j'ai signalé à Jacques Neuwart, que je connais, un jour des erreurs de traduction manifestes, vous voyez. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on confondait par exemple justice et discernement. On ne traduisait pas foi par confiance, alors qu'en fait c'est le terme latin et le terme grec veulent dire la confiance. On traduisait toujours miséricorde et on continue à parler de miséricorde, alors qu'étymologiquement ça veut dire en latin un cœur de pauvre. Et c'est la démarche évangélique. Donc je me suis senti mal à l'aise par rapport à cette paresse d'esprit, me semble-t-il, qui existe dans tout groupe humain, pas uniquement l'Église, mais le groupe des enseignants, etc., le groupe des docteurs, le groupe des économistes, de ne pas interroger le langage qui est comme nous un être vivant.
Vous êtes en pleine question et ces interrogations ne suppriment pas votre foi, mais au contraire sont en tremplin pour creuser davantage.
Oui, parce qu'il y a des gens qui m'ont marqué beaucoup. Il y a des écrivains qui m'ont marqué. Maurice Clavel, Jean Sullivan, un prêtre breton qui n'était pas très bien vu par la hiérarchie catholique, qui a écrit des livres extraordinaires, Paroles du passant, et qui est mort comme un passant, renversé par une voiture. Il y avait des gens, Michel Del Castillo, que j'ai eu comme guide lors d'un voyage, puisqu'il remplaçait Jean Sullivan dans une revue à laquelle j'étais abonné, Panorama Chrétien. Et puis il y a eu des prêtres aussi qui ont été des gens que j'ai trouvé remarquables. J'ai eu, lorsque j'ai commencé ma première année de professeur au Kaouzou, j'ai eu le père Viel qui m'a énormément appris. J'ai eu la chance d'avoir, entre parenthèses, Dominique de Villepin comme élève, qui était d'ailleurs très peu expansif, très renfermé. Et puis j'ai eu comme ami également, dans un groupe auquel j'appartiens, atelier de réflexion partagée à visée philosophique, qui s'appelle ARP Philo, Michel Dagra aussi comme, comme ami. Et avec Michel Dagra, j'ai eu l'occasion d'aller X fois en Algérie, en Tunisie, au Maroc, faire passer cette réflexion sur la, la philosophie est trop importante pour être laissée uniquement aux mains des philosophes. Et tout le monde, y compris les enfants, peuvent avoir un regard critique et un regard de citoyen sur leur propre vie. Et un regard spirituel, en quelque sorte.
Vous parlez de passage.
Oui.
Et vous nous avez apporté un beau chant, celui de la frontière, par la chanteuse Laza, qui est justement latino-américaine et oui. qui joue sur les multiples cultures depuis oui. Le Québec, le Canada. Oui. Cette frontière, oui. c'est la frontière aussi des mots oui. qui font obstacle oui. au dialogue oui. ou au contraire qui peuvent être source de communication.
C'est ça, ils ont une double face, comme le disaient tous les êtres. La frontière, et ça me touche d'autant plus que Laza est morte il y a 11 ans maintenant, et que dans sa voix, on sent cette fêlure et en même temps cette beauté de ce qui est le chemin à parcourir.
Alors c'est Pâques aussi, on doit oui. traverser,
oui.
eh bien nous l'écoutons.
Hoy vuelvo a la frontera, otra vez he de atravesar, es el viento que me manda, que me empuja a la frontera y que borra el camino que detrás desaparece. Que detrás desaparece. Me arrastro bajo el cielo y las nubes del invierno, es el viento que las manda y no hay nadie que las pare. A veces combate despiadado, a veces baile, a veces nada. A veces baile, a veces no. Hoy cruzo la frontera, bajo el cielo, bajo el cielo, es el viento que me manda. Bajo el cielo de acero, soy el punto negro que anda a las orillas de la suerte. A las orillas de la suerte.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Et ce soir, avec Jean-François Allemand, vous êtes professeur de lettres classiques, formateur en formation continue, et vous allez nous parler des enfants que vous avez eus pendant 7 ans en classe professionnelle de niveau, de vos parcours, non seulement théoriques, mais aussi géographiques. Alors, cette frontière, telle qu'elle est chantée par... Laza.
Alors justement, ce que vous dites sur les enfants que j'ai accompagnés me semble correspondre à ce chant que j'ai connu après les avoir accompagnés. Je vais simplement traduire le premier couplet. « Aujourd'hui, je retourne à la frontière. Je dois encore traverser. C'est le vent qui me commande et me pousse à la frontière, efface le chemin qui disparaît derrière moi. » Lorsque j'étais professeur, je prenais quelques petites libertés avec les sujets de rédaction, les épreuves de dictée. Et donc, le chef d'établissement m'a dit « Il y a des élèves qui sont un peu particuliers, ça serait bien que vous les preniez. » J'ai dit « Oui, je veux bien. » Et je m'étais inscrit à un stage d'audiovisuel pour me former moi-même. Et donc, j'ai accepté de prendre ces élèves sans savoir qui ils étaient. Et j'ai découvert que c'était des élèves en très grande difficulté. Et c'est là que la conversion s'est produite, puisque moi j'ai traversé la frontière aussi, je suis allé vers un chemin que je ne connaissais pas. C'était le vent qui me commandait, l'esprit de vie, pour ne pas pour répondre à une attente, peut-être pour retrouver l'enfant qui était en moi, qui n'avait pas eu de père, qui était lui-même blessé. Ses enfants, ils étaient blessés.
Mozart qu'on assassine.
C'est ça. Et je leur ai dit, si vous êtes là, c'est la responsabilité soit des parents, soit des enseignants, et la vôtre. Vos parents et les enseignants, je peux rien, mais pour vous, je peux. Et je suis là, j'étais le plus diplômé de l'établissement, je suis là à votre service. On va définir ensemble, nous étions trois professeurs, moi je les avais 11 heures, bien évidemment je ne faisais ni français ni latin grec, je me débrouillais, j'inventais, et j'avais comme but, nous avions comme but de les réconcilier avec eux-mêmes, de définir un projet professionnel, et de leur apprendre à lire, écrire et compter. Voilà. Et on a eu des succès absolument étonnants.
C'était des classes de niveau, comme on dit, avec un niveau social défavorisé,
oui,
mais pas tellement ce que l'on perçoit actuellement comme des différences de race.
Non, absolument pas, même si j'avais des élèves d'origine culturelle différente. Hein.
Oui. Alors justement, Lassa chante parfois combat sans pitié, parfois danse,
oui,
parfois rien.
Oui.
Je suis le point noir qui avance aux abords de la chance. C'est Moïse qui traverse le désert ?
C'est Moïse
qui sauve
traverse
son peuple ?
Oui, un petit peu peut-être aussi.
C'est un mythe celui-là, ça n'existe plus, vous êtes rationnel.
J'y crois modérément. Quand je lis la Bible, je me dis, le Christ a vraiment franchi, nous a fait franchir un pas extraordinaire. Jésus de Nazareth nous a fait franchir un pas extraordinaire. Passer du Dieu vengeur, du Dieu en colère, du Dieu qui est le Dieu d'un peuple et pas d'un autre, à un Dieu amour.
Martin Pochon nous a parlé d'ailleurs il y a 3 semaines justement de ces parfois contresens ou ces interprétations de la lettre aux Hébreux.
Oui.
Mais certains déjà au XVIe siècle, je pense à Pascal ou à d'autres, qui se sont interrogés des différences qu'il y avait entre les évangiles et entre les évangiles synoptiques.
Oui.
Et puis le fait que pourquoi Moïse peut-il déjà parler de sa propre mort ? C'est un petit peu incohérent. Mais si on dit, mais non, les linguistes nous disent qu'effectivement, certains passages de la Genèse ou bien de l'Exode ont été réécrits après le retour de l'Exode. Et le rabbin Doron nous a parlé il y a quelque temps de ce mythe de Pâques, mais en même temps qui fait sens.
Oui.
La libération des Noirs, « Let my people go » avec les Negro Spiritual. Oui. Alors vous avez adapté votre enseignement, vous avez passé la frontière.
C'est ça, j'ai passé la frontière et j'en ai été extrêmement... C'est eux qui m'ont converti, puisque j'étais obligé de remettre en cause tout le savoir, la pertinence des rédactions, la pertinence des dictées, etc. En revanche, on travaillait beaucoup sur le langage, sur la poésie, sur l'interview, sur l'expression de soi, sur la confiance en soi. Et quand j'ai terminé ma carrière de prof à Fermat, en étant passé entre les deux en formation continue et formateur de formateurs, et en particulier en audiovisuel, mais j'ai aussi animé des stages sur l'écoute et la communication pour les professeurs d'enseignement général du collège jusqu'au lycée. Eh bien, là, j'ai eu la chance d'avoir un de mes anciens élèves de CPN qui est venu me trouver à Fermat, un grand bonhomme que j'ai reconnu, qui était très turbulent, etc. Bref, je passe. Il avait eu un parcours professionnel remarquable alors que d'habitude les élèves partaient en vie active. Il était allé à Revel pour faire un travail sur la menuiserie, sur l'ébénisterie. Et puis, il avait fait son service militaire. Et là, un copain lui avait dit, mais tu devrais continuer les études. Il avait passé le bac. Et là, il m'a dit, je suis venu vous voir parce que je me souvenais de ce que vous faisiez avec d'autres enseignants. Et pour vous dire bonjour, je suis en deuxième année de philosophie au Mirail.
Très bien. Voilà. Alors, oui, mais ça, ce sont des exercices de langage. C'est de l'intellectuel. Alors, en fait, on va dire, mais d'un côté, la foi du charbonnier, d'un côté, ce choc que vous avez eu de celui qui a tué votre maman.
Oui.
Peut-on pardonner à quelqu'un qui est fou ou en tout cas qui est malade? C'est une autre question qui vous touche au cœur et à l'intime.
Oui, ça m'a touché au cœur et à l'intime, d'autant plus que ma sœur, qui a un an de plus que moi, devant mon attitude, s'est fâchée avec moi pendant 7 ans. Puisque moi, j'avais pardonné. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est déclaré fou par les psychiatres, toute enquête de police et de justice s'arrête. Donc si on veut avoir des nouvelles de celui qui a tué, il faut faire soi-même son enquête. Donc j'ai porté l'affaire devant les tribunaux, j'ai demandé qu'on fasse une enquête, et moi-même j'ai fait une enquête auprès des lieux où ce jeune homme qui avait 19 ans avait habité avant de tuer ma mère. Et donc je me suis rendu compte qu'il avait une vie horrible, qu'à 8 ans ses parents avaient divorcé, qu'il était parti avec son père et qu'il avait fait la manche de l'âge de 8 ans jusqu'à 18 ans, et puis qu'un soir de Noël, son père, pris de boisson, avait tenté de le tuer. Donc il avait été interné, par la suite il était devenu fou, et il a été remarqué dans le quartier par la police qu'il avait déjà arrêté 2 ou 3 fois. Donc je ne pouvais pas en vouloir à ce garçon qui avait été victime de quantité de choses.
Comment casser le cercle vicieux de la violence?
Voilà.
Peut-on tout excuser au niveau de ceux qui sont des vandales ou peut-être qui m'ont tué au nom de Dieu?
Oui. Alors moi, je ne sais pas si j'excuserai, mais là je sais que dans le cas précis, je n'ai aucune violence vis-à-vis de ce garçon. D'autant plus que le terme violence, puisque j'ai fait de la linguistique aussi, est quelque chose qui me parle, puisque la violence, il y a la racine de wis, la force, all que l'on trouve dans adolescent, donc qu'on retrouve sous la formule dans adulte, et qu'on retrouve dans al, dans alimentation. Donc la violence, étymologiquement, c'est une force de vie nourricière. Autrement dit, la Terre s'est constituée par la violence, les cataclysmes, le vulcanisme, etc. Et lorsqu'un enfant vient au monde, il fait violence à sa mère aussi. Et on lui fait violence aussi, mais c'est une violence génératrice qui porte quelque chose en germe.
Alors et vous avez apporté justement une image de la chenille et du papillon. C'est
voilà.
Une violence, mais une transformation.
Voilà, en fait, c'est une transformation.
Et nous sommes à Pâques.
Et nous sommes à Pâques.
Ça veut dire que vous croyez que Jésus est ressuscité, aujourd'hui vivant?
Ah oui, je le crois profondément, parce que je crois que moi-même, je suis porteur de mort et de vie. Et le combat d'un être humain, me semble-t-il, c'est de passer sans arrêt de la mort à la vie. C'est le message de Jésus de Nazareth.
Alors nous reparlerons peut-être de ce livre « Aurore boréale »,
livre
autrefois de Jean Laure, ce prêtre de la Mission de France. Mais je voudrais que vous évoquiez, parce qu'il nous reste très peu de temps, votre amour du Maghreb et du dialogue avec d'autres cultures.
Oui. Alors ça, c'est grâce à une amie qui était professeure de philosophie et ensuite qui était inspectrice d'enseignement du primaire, dont j'ai fait la connaissance grâce à Michel Dagra, qui était un ami aussi. Et donc, je suis devenu formateur dans cette association pour pouvoir faire des formations à l'écoute et à l'expression, à leur regard critique au Maghreb. On a commencé par l'Algérie. Et donc, j'ai des amis algériens qui viennent chez moi régulièrement. Je me rends chez eux. J'ai des amis en Tunisie aussi. J'ai une petite cousine qui a voulu aller en Tunisie, je l'ai fait héberger, je l'ai fait connaître des amis tunisiens, et puis on a fait ensuite la connaissance d'autres Marocains, et on est tout un groupe qui agissons donc en concert pour pouvoir promouvoir une culture de la paix et de la citoyenneté,
Merci.
Y compris avec les enfants.
Donc nous parlerions bien sûr de ces échanges interculturels, interreligieux, mais vous vouliez terminer par une prière à ce moment où nous approchons donc de ces festivités de Pâques.
Oui. Alors voici ma prière qui m'a été aussi inspirée. Je fais confiance au vent qui bouge. Jésus, fils comme moi, du Dieu vivant, aide-moi à passer d'une culture chrétienne de la puissance, du savoir intellectuel, à une vie au cœur de pauvre, la miséricorde, celle de ton père terrestre, Joseph. Merci pour tous les signes, souffles de vie que tu envoies sur mon chemin, véritable résurrection de ma vie.
En ces temps de Pâques, nous nous souhaitons une croyance dans cette résurrection, dans ce qui nous fait vivre. Merci Jean-François, merci aussi à Christophe.
Et merci à vous, Benoît.